On est très heureux de vous retrouver pour la 11e édition de Atmosphère Jazz. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marguerite et Jean-Baptiste à la technique. On va se régaler. Bon, aujourd'hui, dans le jazz, c'est un peu l'hécatombe. Hein. Ces derniers temps, Youssef Latif est décédé, Jim Hall est décédé, Chico Hamilton est décédé, récemment, Ronnie Jordan est décédé, donc... comment faire si ce n'est de parler un peu du miracle qui nous reste, c'est-à-dire des traces musicales de tous ces hommes. Alors je voulais un petit poème qu'on va lire en silence, qui s'appelle « Le miracle ». C'est un poème de Bukowski, tiré de « Des jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines ». Donc un texte qui s'appelle « Le miracle », pour parler... je trouve, du miracle artistique, de ce qui reste de ces hommes. Travailler une forme artistique ne signifie pas se tortiller comme un ver solitaire rassasié. Ça ne justifie pas non plus les grands airs, ni la cupidité, ni en aucun cas le sérieux. Mais je crois deviner que ça occupe les meilleurs moments des meilleurs d'entre nous. Et lorsque cela meurt, et quelque chose d'autre ne meurt pas, nous voyons le miracle de l'immortalité. Des hommes arrivés comme des hommes, repartis comme des dieux. Des dieux dont nous savions qu'ils étaient ici, des dieux qui nous laissent maintenant continuer quand tout nous presse d'arrêter. Là, vous venez d'entendre donc ce magnifique quintet de Hank Mobley, avec Lee Morgan, Hank Mobley, McCoy Tyner au piano, Billy Higgins à la batterie et Bob Cranshaw à la basse. C'était en 1966, c'était une époque extrêmement prolixe pour Hank Mobley parce qu'il enregistrait 8 albums en 16 mois chez Blue Note. Voilà, moi j'aime bien, le morceau s'appelait Straight No Filter, un peu en faisant un jeu de mots par rapport au morceau de Thelonious Monk, Straight No Chaser. Donc, on poursuit avec un morceau de Randy Weston. Randy Weston, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, alors que ça fait bien longtemps qu'il existe. Un morceau qui s'appelle Fire Down There, et qui en fait est une... C'est le morceau initial de ce calypso Saint Thomas joué de nombreuses fois par Sonny Rollins. On écoute Fire Down There. C'était donc Randy Weston accompagné de Sam Gill et Wilbur Hogan. C'est vraiment la paraphrase de Saint Thomas. On sait donc où Rollins est allé puiser cette idée des Caraïbes. Randy Weston, qui est né en 1926 et qui nous fait l'honneur aujourd'hui de participer au festival Banlieue Bleue à Paris, là, qui va commencer au mois de février. Là, on poursuit avec un morceau de George Adams et Don Pullen. Un morceau assez long, avec des univers très différents. Et on parlera avec Marguerite peut-être des images que ça nous évoque. Un sacré couple du jazz, George Adams à la flûte et au saxophone, et Don Pullen au piano. On dirait un peu du Lelouch, en fait. On passe par plein d'images en ce qui concerne ce morceau, plutôt dans le sens du poil, en pleine mélodie. On parlait tout à l'heure avec Marguerite du cinéma et de la musique. Tu voulais nous lire un petit bout de texte.
Oui, je voulais lire une phrase de Godard dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Godard, Histoire du cinéma. Et à propos de la musique, il dit quelque chose, il dit ça. Je trouve que le cinéma est extrêmement intéressant parce que ça permet d'imprimer une expression et puis en même temps d'exprimer une impression. Il y a les deux. Et une image, c'est plus, surtout quand elle peut être mélangée avec un son, c'est beaucoup, beaucoup plus démocratique que la musique qui est beaucoup plus dangereuse, qui est plus agréable aussi, mais qui est beaucoup plus dangereuse à cause de cet agrément, beaucoup plus séduisante. La musique est tout de suite quelque chose de séduisant. Alors voilà, ça me fait réfléchir sur la musique.
C'était le cas de ce morceau, en fait.
Oui, parce que alors du coup, je l'ai écouté très attentivement, ce morceau, et je trouvais qu'effectivement, c'était très cinématographique. La première partie du morceau qu'on a écouté...
Toute l'intro à la flûte et tout ça.
J'imaginais, je me voyais devant un dessin animé, un univers, la nuit, un des personnages comme ça qui se baladent sur un toit, je sais pas... Et puis après, au contraire, un film grande production américaine... Très, très riche d'images, mais très libre. Alors,
très évocateur.
Oui, évocateur d'images. Après, est-ce que les sentiments qui nous sont très personnels, mais qu'on peut vraiment dessiner en fonction de.
Et c'est toujours
propre...
le cas pour toi des morceaux de jazz? Non.
Non, il y a des morceaux qui sont. Non, non. Non, je trouve qu'il y a des morceaux qui évoquent plus des sensations, des émotions, sans images. Sans images. Sans que je projette une image particulière.
Plus abstrait.
Ouais. Ouais. Plus sans, plus
autrement ressenti. Autrement dit, plus c'est mélodique, plus c'est consonant, plus c'est mélodique, plus c'est évocateur d'image. Et puis, ou plus c'est abstrait, ou plus c'est... Non, ça dépend aussi de l'énergie, remarque.
Ouais, ça dépend de
l'art. George Adams, c'est un saxophoniste très, comment on dit, très churchy, c'est-à-dire... C'est un peu l'époque de l'église, des gospel, du blues et tout ça, du rhythm and blues.
Mais toi, par exemple, tu étais riche aussi d'images quand tu écoutais ce morceau dans ta tête.
Oui, je trouvais que c'était un morceau tout à fait représentable en images, en tout cas. Moi, je pensais, voilà. On dirait un homme et une femme de Lelouch, c'est-à-dire une petite mélodie qui tout d'un coup, presque romantique, Un tube.
Et qu'est-ce que tu dis alors quand Godard dit la musique est beaucoup plus séduisante par rapport à l'image, par exemple. Est-ce que tu penses que la musique est plus séduisante que l'image?
Non, moi je trouve pas, justement.
Elle est dangereuse parce qu'elle est plus séduisante. Moi j'aime bien ces deux mots-là, mais moi je suis tellement séduite par l'image que... Est-ce que c'est très évident que la musique ce soit...
Moi je préfère la musique à l'image, alors bon.
Mmh.
Mais bon.
Bon, ça, en tout cas, ça interroge.
On va poursuivre avec un morceau d'un pianiste très original qui s'appelle Jackie Bayard, qui est de l'école des Duke Ellington, Thelonious Monk et Randy Weston et tout ça, qui nous joue un morceau, justement une composition de Randy Weston qui s'appelle High Fly. Il joue avec Ron Parker et Pete LaRocca. Thank you. Bon, alors là, c'était beaucoup moins consensuel, Marguerite. On ne peut pas dire qu'on était dans une représentation cinématographique de la musique.
Non, c'était très différent, c'est vrai. J'ai pas eu une envolée comme ça.
Ni de dessin animé dans la tête.
Non, du coup, plutôt à écouter la musique, le son, je sais pas, comment ça s'enchaîne. Beaucoup plus, qu'est-ce que c'est la musique,
que ça
m'évoque, voilà, oui. Ça peut être ça aussi, écouter de la musique, ça peut être.
On va écouter un autre morceau d'un groupe célèbre qui s'était formé autour des années 80, qui s'appelait Sphère, en hommage à Thelonious Sphere Monk. Un morceau qui s'appelle Pumpkin's Delight, avec Charlie Rouse au saxophone ténor, Ben Riley, Buster Williams et Kenny Barron au piano.
Thank you.
Vraiment trop bon d'entendre Buster Williams avec sa basse ronflante. Donc c'était le groupe Sphere qui s'est rencontré sous l'influence de Thelonious Monk et du groove. Là, je vais poursuivre avec un album d'une chanteuse qui nous est proche. Je vois qu'elle a remercié différents musiciens dans ses remerciements, là, dans son album, notamment Paul Pioli, sans doute, avec qui elle a beaucoup joué à une époque. C'est une chanteuse qui a été couronnée de succès là, cette année, Cécile McLaurin-Salvant, par la compétition Thelonious Monk Competition là, aux États-Unis. Et on va entendre une chanson qui s'appelle « Baby, have pity on me ». Cécile McLaurin qui jouait avec James Cheerio à la guitare banjo. On va poursuivre avec un morceau d'Éternel Agitateur qui ont marqué l'époque du jazz. C'est un album de Duke Ellington qui s'appelait Money Jungle. Money Jungle qui était déjà très en avance sur son temps. On écoute un blues qui s'appelle Wagwise. Thank you. Là, c'était deux jeunes fous qui accompagnaient Duke Ellington, qui à l'époque faisait plutôt office de père vis-à-vis d'eux, avec Charlie Mingus à la contrebasse et Max Roach à la batterie. Là, je disais à Marguerite, alors, c'est ce que tu préfères, en fait, comme musique, comme jazz? Et elle me répondait...
Tu veux que je te répète ce que je t'ai répondu?
Oui.
Eh ben, je ne sais pas si on peut répéter deux fois la même chose, mais...
Non, mais tu ne l'as pas dit au micro tout à l'heure.
Je trouve que c'est extrêmement puissant. Là, ça évoque ni des images, pas forcément d'émotions non plus, mais un vrai langage, la musique comme un vrai langage.
Même tu disais pas ça, tu disais en fait on sent la force, l'énergie de la musique
la
à elle toute seule.
Oui, c'est ça, un langage en soi, très très.
Tu penses c'est l'implication entre les gens qui sont en train de jouer ou vis-à-vis de leur instrument ou vis-à-vis de, c'est pas le fait de jouer fort, c'est intensément
oui,
en
oui,
fait.
Oui, intensément avec, oui.
Intensément.
Avec... Oui, oui, très puissant, très.
Alors on va vous quitter cette 11e édition de Atmosphère Jazz, on va vous laisser avec un morceau d'une dizaine de minutes d'un célèbre album de Freddie Hubbard qui s'appelait Red Clay. On est donc, je remercie Jean-Baptiste, Marguerite et Léo Méry d'avoir construit cette émission. Donc c'est un album qui s'appelle Red Clay, le morceau ça s'appelle Cold Turkey. On est toujours donc diffusé le premier lundi du mois à 21h et le deuxième mardi à 14h30.
Je ne sais pas, 14h ou
14h. 14h ou 14h30. À très bientôt.